Les controverses du village, épisode numéro 12. On se retrouve aujourd'hui avec la rédaction du village, avec Émilie.
Bonjour.
Dominique.
Bonjour.
Et moi-même, Sullivan Le Postec, pour faire le point sur nos devoirs de vacances, les séries que nous sommes confiés les uns les autres à regarder pendant cet été. On va faire ce, on va débriefer tout ça ensemble tout de suite. Love is life, it's in my love. Alors, pour commencer, Dominique, quelle série, quel programme tu es confié à regarder à Émilie ?
Alors, je vais évidemment confier la série que je confie à tout le monde en ce moment, c'est Luther, donc la série de Neil Cross pour la BBC avec Idris Elba. Donc, c'est une série noire, une série policière, une sorte de Columbo revu et corrigé, dans le sens où on connaît le meurtrier au début, mais la personnalité évidemment du policier n'est pas la même. Donc, Émilie, qu'as-tu pensé de Luther ?
Moi, j'ai trouvé que... Alors, c'est, à la base, c'est quand même pas forcément mon trip, on va dire. Les séries policières, les séries très sombres. Et j'y suis allée un peu... tout le monde en dit tellement bien. Ça doit être génial. J'ai pas eu de coup de cœur, personnellement. Dans le sens où... c'était pas non plus une pénible de le regarder. Mais si tu veux, c'était pas mon affinité. Je me suis pas éclatée devant. Maintenant, c'est hyper techniquement et globalement, c'est hyper précis, c'est hyper soigné en fait. C'est ça que j'en retire. C'est-à-dire que visuellement, l'image, je la trouve magnifique, complètement dans ce qu'il faut par rapport au personnage de Luther. Ça lui correspond totalement. La première scène, la scène d'ouverture, elle te met complètement dedans, avec ce mec suspendu dans le vide et cette première tension et ce dialogue qui arrive seulement à ce moment-là. Et tu comprends tout de suite à qui t'as affaire, comment ça se situe. Elle est hyper efficace. Mais voilà, c'est, après, c'est juste que c'est pas montré. Mais globalement, c'est nickel, c'est propre. Il n'y a pas un truc qui semble pas cohérent. Enfin, après, je n'ai pas regardé complètement la saison 2. J'ai regardé des morceaux de saison 2. Je préfère le dire, hein, pour pas
des
que...
Des morceaux de saison 2 ?
Oui, mais je suis une vilaine. Moi, je me spoil quand je veux savoir ce qui va se passer par la suite et que j'ai pas eu le courage ou que j'ai pas le temps de tout regarder. Je regarde des bouts, comme
voilà,
ça.
Surtout que la saison 2, c'est une saison qui est particulière étant donné que c'est un 2 fois 90 minutes divisé en... Ça fait au final 4 fois 52, mais...
Ouais, c'est pour ça que j'ai regardé un peu les deux premiers, en fait. J'ai pas regardé du tout les...
Un peu les deux premiers.
Je voulais savoir ce qui se passait avec la rousse.
Ok, dehors.
Je savais qu'il allait râler. Je le fais un peu exprès aussi, vous l'aurez compris.
Ouais, surtout que c'est dommage parce que c'est le suivant de la saison 2 qui est vraiment.
Ouais, mais de toute façon, c'était la saison 1, les heures de vacances. Restons-en à la saison 1.
Ouais, mais quand même, là, je suis profondément déçu.
Parce que, enfin, c'est vrai que tu parlais de l'aspect visuel de la série. C'est vraiment. Luther, ça fait partie de cette série de la nouvelle génération de la fiction anglaise, quoi. Celle qui est née, je sais pas. La transition s'est faite quelque part entre 2005 et 2008-2009. Ouais. Et ils ont révolutionné visuellement leur télé, quoi. Moi, je m'en ai déjà un petit peu parlé. Pas tant que ça, finalement, par rapport à ce que ça représente. C'est incroyable. Tous ensemble, toutes les chaînes, c'est-à-dire aussi bien ITV que la BBC, que même les chaînes autour, E4, évidemment, de Skins and Misfits, ou même les choses comme le Sky One, les séries du satellite. Ils ont révolutionné visuellement leur fiction, quoi. Ils ont tout mis au goût du jour. Ils ont des programmes qui sont léchés, quoi.
Ouais, et puis ils ont mis au goût du jour et surtout ils ont personnalisé cette image par rapport vraiment au sens qu'a la série, à ses personnages,
oui,
etc.
Oui, tout à fait. Oui, c'est pas une stylisation,
c'est intelligent.
Alors il y a une double intelligence, je trouve, c'est que non seulement ils ont stylisé par rapport au sens, mais en plus ils ont été assez malins pour tenir compte du format, du fait que ce soit télé. C'est pas des réalisateurs de ciné qui font de la série télé. Vous savez de qui je parle. enfin de quelle, on va dire, chaîne je parle. Mais bon, globalement, voilà, c'est vrai que visuellement, moi, je suis bluffée, quoi. C'est une série qui, visuellement, est magnifique.
Ah oui, totalement. Et puis, voilà, il y a une vraie recherche, il y a une vraie explication pourquoi il y a autant d'air autour des personnages. C'est pour les isoler, c'est pour... on en parlait avec Sullivan, c'est pour... T'as l'impression qu'ils ont tout le poids du monde sur les épaules. Et c'est pas juste une idée de réalisation stylistique, c'est aussi très beau. Enfin, ça appuie vraiment le propos. Et c'est en même temps esthétiquement magnifique. Donc oui, moi c'est
une, cette
c'est...
lumière froide, enfin c'est difficile à gérer une lumière froide, oui. Parce que dans un sens, enfin il y a beaucoup de contrastes, donc derrière forcément le côté sombre qui est mis en avant, mais en même temps on tombe pas dans des extrêmes comme Braco. Il y a une clarté dessus et ça permet quand même. Ce qu'il y a, c'est que le froid, j'ai tendance à dire que ça casse la. Au niveau des personnages, le côté l'empathie avec le personnage parfois.
Ah, moi je suis pas d'accord, mais au contraire.
Non,
moi,
pas
je suis...
justement là. Ah non. Oui, là non. Mais d'accord. Mais okay. Que globalement, quand tu utilises souvent une image assez froide, tu peux casser un peu rapidement le.
C'est quand tu l'utilises juste pour donner un genre.
Voilà. Et là, ils s'en sortent très très bien.
Tu parlais de Braco. Si tu fais un parallèle entre Braco et Luther, Braco, c'est comment dire, c'est une esthétique qui est complètement gratuite. Enfin, il y a pas de justification particulière, si ce n'est de vouloir faire crade, de vouloir faire. Mais ce qui est emmerdant, c'est qu'avec une série comme Braco, tu vois très mal ce qui se passe à l'image et t'entends pas beaucoup ce qui se dit. Allez, ce qui se dit vocalement chez Luther, t'as jamais ce problème de perception. Tu comprends tout ce qui se passe, tu vois tout ce qui se passe, et en même temps. C'est noir, c'est sombre, parce que le propos le permet, parce que le jeu d'Idriss Elba, enfin moi il m'a laissé.
Parce que le père, oui, non, mais clairement.
Moi je suis en empathie complète, même si je comprends pas ses actions, je suis pas d'accord avec ce qu'il fait, je suis en empathie complète avec ce type-là. Et t'as pas ressenti il ça a... en fait
Si, tu sens. En fait, tu le trouves à la fois surhumain dans sa capacité à comprendre et à mettre en place les pièces, et en même temps. Trop humain dans sa façon, voilà, de tout absorber en émotion et de péter un câble quoi au bout d'un moment parce que ça déborde.
Ah, ce mec-là,
je suis d'accord. Non, mais après quand je te dis que j'ai pas eu le coup de cœur, c'est-à-dire que c'est peut-être justement le côté aussi un peu sombre où moi je suis un peu plus en réserve. C'est ça aussi.
Ah, c'est pas.
C'est que j'aime bien moi réussir à vraiment. Je suis une fille. Moi, j'ai besoin surtout en ce moment, j'ai besoin d'un truc un peu plus. Ah, c'est moins lourd. Ouais, c'est ça aussi, si tu veux. C'est peut-être que je l'ai regardé comme ça.
On va essayer de contacter Neil Cross, on va lui demander. La troisième saison légère, sympathique, enjouée.
Non, mais si tu veux, c'est aussi ça. C'est que, à mon avis, dans l'état d'esprit où j'étais quand je l'ai regardé, c'était un peu trop sombre pour que vraiment je réagisse à ce point-là. Mais par contre, oui, je suis d'accord avec toi. Ce personnage, il est magnifiquement écrit. Et le personnage féminin, la rouquine, je ne sais plus son nom. Désolée, je l'ai regardé.
Enfin, Ruth Wilson qui joue Alice.
Voilà, Alice, oui, Alice. Mais Alice, c'est pareil, ce duo, il est génial.
C'est la meilleure composante de la série, c'est...
C'est sa relation avec elle.
C'est dommage qu'en saison 2, bon, je pense que c'est soit un problème de grossesse, soit un problème de planning, mais Ruth Wilson n'est présente que dans le premier double épisode, voilà. Disparaît ensuite. Paradoxalement, c'est le deuxième qui est le meilleur. Le deuxième double épisode est meilleur que le premier, même si Alice est dedans, et même si quand ils enlèvent ce personnage d'Alice, moi j'ai failli hurler et dire « mais vous êtes pas malade !» Mais après, je sais pas, bon, elle reviendra sûrement. Enfin, c'est une relation tellement forte entre les deux, et tellement, comment dire, elle fonctionne tellement, c'est tellement parfait, un équilibre tellement parfait entre les deux que...
Et c'est marrant parce que pour avoir regardé un peu ou eu des échos divers, c'est quelque chose qui est très qui divise vachement en fait. Il y a une partie du public dont j'avoue je fais également partie, donc pour le coup on est d'accord là-dessus, mais qui adhère complètement à cette relation, à ces deux personnages. Et il y a une partie par contre qui peuvent aimer Luther mais pas aimer Alice, être content qu'elle soit pas dans la saison 2.
C'est-à-dire que la relation elle est quand même hyper malsaine dans le fond.
Ouais,
elle est super malsaine.
Donc malgré tout,
elle est très équilibrée comme tu dis, parce que tu as l'impression qu'il a il est conscient qu'elle est dangereuse. Mais il est conscient que c'est une des rares qui va être à son niveau de perception sur certains points, et avec qui il est, en gros, avec qui il est capable de jouer une partie d'échec, quoi. Et en même temps, il a l'impression qu'elle est plus ou moins sous contrôle. Et quand il perd ce contrôle, c'est là que tu sens d'ailleurs qu'il y a des moments où il a eu cette impression un peu au début, il a rapidement perdu un peu le contrôle avec elle, parce qu'au début, il l'a quand même rencontré. Après, il y a eu les échanges, les textos, les machins où elle est venue menacer sa femme. Tout ça. Et là, c'est pour ça, ça reste toujours un peu limite. Mais en même temps, cette nénette, c'est clair que pour créer l'empathie, sur ce coup-là, la nénette, elle a tué ses parents dès le premier épisode d'une façon incroyable. Et et elle reste de marbre et il est incapable de la coincer. Donc, c'est clairement, ouais, tu pars sur une base de le spectateur lambda, créer l'empathie sur cette relation.
Oui, mais en même temps, c'est une relation qui est tellement basée sur une sorte de, enfin, d'amour pur, de respect, de compréhension. Parce que clairement, ce sont deux sociopathes. Tu peux les échanger, tu peux échanger leurs rôles, ça fonctionne de la même manière. Et tu as l'impression que l'un comme l'autre, leur relation respective, c'est la seule personne qui peut le comprendre au monde. Mm-hmm. Que ce soit pour le personnage d'Alice ou le personnage de Luther. Mm. Donc pour moi, c'est une force majeure, cet élément de la série. J'espère qu'il sera de retour en saison 3.
Bon, oui, c'est juste leur état. De toute façon, ils ont le même niveau intellectuel, mais c'est leur état émotionnel. Ils ne sont pas au même stade, en fait.
Non, ils ne sont pas au même stade.
Ils sont pas au même stade. Elle l'a accepté.
Elle a accepté sa condition de sociopathe.
Ouais.
Et lui, non. Lui, il se bat contre parce qu'il a encore, il a encore de l'humanité en lui. Mais c'est, enfin, tout est résumé dans la dernière scène du premier épisode quand t'as Luther qui a Alice au téléphone et qui lui dit « T'as tort, il y a encore de l'amour dans le monde ». Et tout est résumé là-dedans. Lui, il y croit encore. Il a de l'empathie pour les gens. C'est pour ça qu'il s'investit à tel point dans ses affaires. Enfin, il va à des extrêmes incroyables. Mmh. Enfin, je défie n'importe quel flic de se mettre dans des états pareils sur des affaires. Parce que justement, il croit en l'être humain, il croit en l'amour. Alice, plus du tout.
Mais, enfin, c'est tellement loin, cette époque où elle a dû croire que, enfin, voilà, on se demande si elle a même été un jour dans cet état-là, quoi.
Limite, même si, au final, à la fin de la saison 1, elle lui dit, t'avais raison, il y en a encore, mais en fait, c'est pas parce qu'elle a de l'amour pour le monde, c'est parce qu'elle ressent de l'amour pour lui.
Ouais, il y a cette relation qui s'est mise en place.
Donc, enfin bon, moi, cette série-là, elle m'a complètement bluffé, elle m'a laissé scotcher sur ma chaise, esthétiquement, musicalement aussi. Enfin, c'est facile de mettre Massive Attack sur un générique et de trouver ça génial, mais ça colle tellement bien à l'ambiance de la série que c'est absolument pas gratuit. Moi, enfin,
il y a un truc qui est formidable aussi, c'est qu'après, donc, notamment sur la saison 1, il y a six épisodes, il y a des intrigues policières dans les épisodes où, par certains aspects, c'est des intrigues policières.
C'est comme du procédural, voilà, tout ce qu'il y a de plus standard.
Mais à chaque fois où il y a une scène, un moment, un truc qui te scotche. Enfin, moi, je sais plus dans quel épisode. Il y a des scènes d'interrogatoire entre Luther et une femme. Je sais plus c'est quoi l'enjeu. Mais enfin, ça retourne à chaque fois, enfin, il trouve à chaque fois de trouver
le
un moment dans cette enquête où on va faire quelque chose différemment, où on va vraiment creuser un personnage. Donc même, enfin voilà, à chaque fois il y a un truc complètement mémorable qui fait que qu'on n'a pas l'impression d'avoir revu l'épisode de 92 000 de CSI ou je sais pas quoi.
Et pourtant, c'est une série qui est plus ou moins hyper codée, quoi. Enfin, quand je la comparais au Columbo, c'est parce que voilà, tu commences sur Luther et sur le meurtrier. Tu sais qui est le meurtrier dès le départ, donc l'aspect whodunit, t'en as rien à foutre. Ce que t'attends, c'est de le voir confronté à Luther, salle d'interrogatoire ou peu importe. Et c'est ça la force de la série, c'est en fait ces moments où ils s'échangent avec eux. Et d'un seul coup, ça reste du procédural, parce que chaque épisode est centré sur une seule affaire. Mais t'as une évolution du personnage, t'as une montée en tension comme j'en vois pas dans les procédural. C'est du procédural de très très haute facture.
C'est vrai que c'est la limite de ce qui est devenu la norme du procédural, où finalement on te fait une enquête, mais
l'enquête n'est qu'un prétexte.
Oui, et le but du procédural, c'est d'être rassurant, en fait. C'est pour ça que ça marche sur CBS, ça marche sur TF1.
Ouais,
c'est « Ah, mais c'est bon, les gentils flics, ils vont arrêter les vilains méchants et tout va bien se passer. » Et il y a le bien, le mal, mais le bien arrête le mal à la fin. Et on entoure tout ça avec un joli ruban rose. Vous pouvez vous coucher et n'oubliez pas le journal de Jean-Pierre Pernaut demain à 13h.
Si vous pouvez vous coucher l'esprit tranquille, il n'y aura plus rien de pas résolu par rapport à ça.
Alors que Luther prend le contre-pied de ça, t'explique que le flic et le pire voyou, c'est à peu près la même chose.
C'est la même chose.
Et te met dans le. Du coup, t'impacte émotionnellement comme aucun procédural le fait jamais parce que c'est superficiel, parce que c'est un monde en toc, quoi. Et pourtant, Luther cherche pas une forme de réalisme non plus. C'est ça qui est.
Non.
C'est pas du tout.
Non.
C'est un espèce d'univers de comic book presque. Enfin,
C'est même très théâtral par moment. Enfin, c'est très appuyé. C'est T'es dans l'exagération. Le deuxième épisode de la deuxième saison, donc deuxième double épisode, pas évident à dire, c'est énorme ce qui se passe. C'est au-delà de toute logique. Et en même temps, t'es tellement pris par la tension, par ce face-à-face, que bah, t'es dedans à fond. Et au niveau des procédurales, évidemment, on ne compare pas par rapport à CSI et compagnie, hein, mais la filiation, elle se fait plus... Et je pense qu'elle est totalement admise sur une série, ça va faire sourire plus d'un que j'en reparle encore, comme Homicide, parce qu'ils se permettent quand même dans la série, dans la première saison, John Mutter parle d'un détective Munch de New York qui lui a envoyé des informations. Le détective Munch de New York, c'est un personnage que vous retrouvez à peu près dans toutes les séries, mais qui en gros vient de New York Unité Spéciale en version française, et qui a été originairement, il vient de la série Homicide. Et c'était une série à l'époque, c'était un procédural qui était quoi ? C'était des flics qui parlaient de la société, de la vie, de l'art dans une bagnole, et qui en gros, à chaque épisode, ils résolvaient pas forcément les affaires. Donc t'avais pas du tout cet aspect rassurant dans cette série-là, et tu retrouves ça, pour moi ils font partie du même univers, c'est ces flics, bah, des flics qui échouent, des flics qui sont friables, et qui sont sans manichéisme aucun, parce qu'ils sont sur la même pièce que les gens qu'ils pourchassent.
Alors Émilie, qu'est-ce que tu m'avais confié à moi ?
Je t'avais confié Orgueil et Préjugés, Pride and Prejudice, la version 1995. Nous partons dans le vintage, léger quand même, avec le cher Colin Firth, merci.
Et Jennifer Healey, je sais pas comment ça se prononce.
Healey,
je sais pas.
De toute façon, il n'y a que lui qui en est ressorti de cette histoire, c'est pas elle.
Mais elle est très bonne dedans. Écrit par Andrew Davis, adapté par Andrew Davis du roman de Jane Austen, c'est réalisé par Simon Langone, je sais pas quoi. Bref.
C'est surtout ce qui était intéressant dessus, j'en avais parlé dans le dossier à l'époque, c'était Andrew Davis qui était le monsieur j'adapte les classiques anglais à l'écran.
Et puis c'est vrai que ça s'inscrit dans les années 90, c'était beaucoup ça la fiction. La fiction britannique, en fait, c'était une époque où c'était un peu recentré sur, d'une part, leur classique et d'autre part, leur comédie. Donc, en gros, les années 90, enfin, en schématisant en gros très évidemment, mais c'était un peu le costume d'un côté et Abfab de l'autre, quoi. Enfin, et voilà, ils avaient arrêté Doctor Who en 89. Il n'y a pas eu de SF ou de genre pendant les années 90 en Grande-Bretagne. Ils sont revenus pour rediversifier après à partir de 2005. Et moi, ça m'intéressait de voir ça parce que Pride and Prejudice, j'en ai entendu parler 15 000 fois par 15 000 filles, en fait.
Tout de suite.
De cette... Bah, quand même, ouais.
Et
de
dans Véronica Mars aussi.
C'est vrai. De cette mini-série-là. Et du coup, voilà, j'avais envie de voir ça. Et puis, je suis pas forcément... Enfin, un bon mélo de temps en temps, je peux trouver ça très bien. Donc voilà. J'ai commencé à regarder ça, le premier épisode commence tranquillement.
Ouais, il y en a 6 quand même, il faut préciser. Ouais. C'est en 6 fois 52.
Le premier épisode commence très tranquillement. Et puis c'est vrai que je suis vraiment rentré dedans, il y a un vrai charme. Les acteurs sont très très bons. Donc les deux, c'est vrai que First il joue ce personnage de mec fermé, qui sait pas du tout dire ses sentiments, qui du coup, donc c'est sur la réputation, les préjugés justement, donc qui du coup passe pour un gros con, et puis par rapport à d'autres mecs qui peuvent être amiables, être aimables, au sens qu'on peut facilement les aimer, mais est-ce qu'ils sont à la hauteur de leur personnalité sociale ? Pas forcément. Donc voilà, en tout cas, c'est vraiment, il y a des très bons personnages, les personnages sont super bien caractérisés. Donc c'est une histoire, c'est une famille en fait, il y a 5 sœurs, donc qui sont un peu dans la merde, parce que du coup à l'époque, début du 19e siècle, alors fait que des filles, pour les problèmes de transmission d'héritage, c'est pas pratique.
Voilà, disons que les parents, eux, on commence à se dire, il faut qu'on marie nos filles, il faut vraiment les marier bien, parce que lui, il sait déjà que sa maison, elle va passer chez un cousin, voilà. Et ils sont dans la cambrousse quand ils sont pas à Londres, donc c'est un peu plus compliqué. Donc, et la mère est un peu hystérique en plus, ça aide pas non plus les potentiels maris pour leur fille, c'est un peu ça. Mais globalement, c'est ça, c'est la société anglaise à cette époque-là, et c'est quand même un peu sur la place de la femme de toute façon par rapport à ça, peut-être pas aller jusqu'à l'émancipation, on n'est pas là non. du tout, mais bon, par rapport à ce personnage qui a on va dire, des idéaux.
Ouais, c'est, elle pose...
Qui veut essayer de les tenir.
Elles sont dans ce rapport-là, elles savent qu'elles doivent s'en aller, mais elles posent au début, enfin... enfin oui, elles, enfin notamment l'héroïne, elle a pas envie de se marier avec quelqu'un qu'elle aimerait pas ou qu'elle respecterait pas. Enfin, il y a, voilà, il y a ce tout ça. Donc, en tout cas, j'ai trouvé que le premier épisode, il y avait un vrai charme. Il y a, voilà, on voit ces personnages se dégager. Le père est vraiment super sympathique, bah tout ça. Et ça marche plutôt bien. Et le problème après, c'est que ça dure 6 heures, quoi. Le deuxième épisode en fait va tuer le truc, quoi.
Bah,
le deuxième épisode c'est absolument insupportable, c'est un truc autour d'un bal qui se passe, je sais pas. Et donc en gros, t'as à peu près 4 minutes de danse, 15 secondes de dialogue, 4 minutes de danse, 15 secondes de dialogue. Après, ça se met à chanter au piano, ça. Je n'en pouvais plus.
Alors, c'est ça le plus gros problème de cette adaptation. Je trouve qu'ils sont à peu près doués sur le moment où ils coupent les épisodes, c'est-à-dire que c'est à peu près cohérent dans l'évolution des persos, etc. Le découpage en 6 est cohérent. Par contre, on tombe vraiment là dans l'adaptation du bouquin, à proprement parler. C'est-à-dire que, si, je ne sais pas si tu as lu Orgueil et Préjugés.
Non, du tout.
Pour le coup,
je ne suis pas lecteur de Jane Austen.
C'est dans le genre, là, c'est vraiment... et c'est ça, quoi, malgré tout. C'est qu'il y a des passages qui sont très longués. Il y en a peut-être qui vont m'étriper en disant ça, mais il y a des passages qui sont quand même très longués sur quelques pauvres dialogues, etc. Enfin, quelques dialogues entre quelques amabilités échangées, sur, en effet... les scènes de société qui sont... Après, voilà, là, c'est, pour le coup, c'est vraiment une adaptation du roman.
Ouais,
beaucoup
ouais.
plus que, par exemple, le dernier long-métrage qu'ils avaient
fait. C'est ça, il y a eu une adaptation cinématographique avec en 2005. Avec Matthew McFadden. Oh. Alors, c'est marrant, j'ai pas vu ça, mais je sais pas si... Enfin, je vais attendre un peu avant de me taper le film.
Ah, le film gros. Passe beaucoup plus
oui, vite. Ça dure que 2 heures, donc forcément, même on est pas. Bon malgré tout. Enfin, je m'en suis tapé 6 heures, là, c'est bon. Mais, mais le... Enfin, Matthew McFadden, c'est un acteur...
C'est pas si terrible que ça, je me le surfais aussi, du coup.
C'est un acteur tellement différent de Colin Firth. Je suis curieux d'imaginer, de voir ce que ça donne, parce que je veux dire, justement, Colin Firth, il joue un personnage de Monsieur Darcy qui est tellement enfermé, on a tellement du mal à accéder à son univers émotionnel, alors que, comme on l'a dit sur Matthew McFadden, c'est... Sa caractéristique première, c'est l'inverse, c'est de porter son émotion.
Il le fait très bien aussi, hein. Bon, on va pas divaguer sur le film, mais globalement, il le joue, c'est différent. Parce que, en gros, au départ, il reste aussi très hautain. Il n'y a pas de différence là-dessus, forcément. Au niveau du bal, il faut le préjuger au départ. Donc, il reste très hautain. Après, on a le côté, on ne sait pas trop si c'est justement hautain ou timide. Enfin, en tout cas, il n'y arrive pas. Il y a un moment où il commence un petit peu. Par contre, dans les scènes de déclaration, là, on s'enflamme carrément plus que dans la série. Il y a une différence de période. Il y a 10 ans aussi entre deux.
Ouais,
on est en Angleterre, on est sur un long métrage, on est sur une série BBC bien classique, de début de l'évolution en effet, mais bon, ça reste
ouais, justement,
début.
Au niveau de la voilà, moi je ne l'ai pas vu, mais au niveau de la réalisation, c'est axé plutôt comment en fait ? C'est alors, théâtre filmé ou plus
non,
dynamique ?
Non, c'est classique en termes de réalisation, mais c'est d'accord. Très. C'est vraiment c'est luxueux. C'est pas non plus c'est pas non plus trop classique quoi. Il y a une inspiration, enfin il y a de classique mais avec quand même ça a pas, enfin ouais, ça date du milieu des années 90, ça a plus de 15 ans, 16 pas, ouais. Ça va vers ses 20 ans, ça a pas vieilli autant que ça quoi.
D'accord.
Disons que forcément t'as déjà dans tes décors, t'es sur l'Angleterre bien drama de l'époque, donc les fauteuils, les bois, tout, tu vas rien changer là-dessus, le costume, tout ça est très réaliste, beaucoup plus encore que... Enfin, réaliste. En tout cas, plus... tu vois la différence, la version justement de 2005, le film, est plus moderne, même dans ses coloris, oui. dans la photo, tout ça, tu sens que tu tournes
c'est
plus dans
le gris, etc.
Là, tu restes dans des photos, dans des couleurs qui sont très chaudes, et justement, ça... C'est ça qui est un peu néfaste, c'est que c'est très chatoyant par moments. Hein. Les scènes de campagne, c'est très campagne. Hein.
Et puis il y a ce truc en fait où. Alors ça ressemble parfois du coup à de la télé française. C'est très éclairé quoi.
D'accord.
Donc tu as des scènes où en fait c'est la nuit où c'est clair à la bougie. Et en fait, tu vois très bien que c'est pas la bougie qui éclaire cette scène. Si tu veux.
Il y a deux, trois néons.
Tu doutes bien qu'il y a 15 projecteurs qui éclairent tout le monde. C'est
D'accord.
Donc voilà, mais bon, voilà, c'était.
C'est tourné en vidéo, non?
Non. Pellicule. C'est tourné sur pellicule. Ouais, pour le coup, oui. C'était voilà, c'était quand
d'accord,
même.
D'accord, quand même, oui. Oui
la BBC tournait beaucoup en vidéo à l'époque, mais on était dans des coproductions. Il y avait un partenaire américain sur ça.
D'accord.
Et du coup, voilà, il y avait. Donc ça, c'est pour ça, ça a pas trop vieilli. Moi, j'ai chopé une version qui vient d'un Blu-ray. Donc il y a un peu de grain sur l'image, mais c'est pas méchant. Donc ça, à ce niveau-là, ça se regarde très bien.
Et justement, c'était pas innocent ma mention de Véronica Mars, c'est qu'en fait ça fait aussi quelque part un peu partie de la culture américaine. Donc le partenariat avec l'Amérique là-dessus, il a l'air d'avoir bien fonctionné. En fait, du coup, même les Américains connaissent vachement cette version-là, alors que ça vient de la télé anglaise à la base.
Ce qu'il y a, c'est que malgré tout, c'est à part la version qu'il y a eu en 2005, donc largement après, quand même 10 ans après.
Elle condense vachement, quoi. Donc tu peux pas prétendre avoir lu le livre si tu regardes la version de 2005, alors que
bon, et encore, la version de 95 a quand même pris des libertés sur le bouquin, hein, mais globalement, c'est un classique qui se lit quand même énormément aux États-Unis. Orgueil et préjugés, je pense que toutes les lycéennes ou autres, dès que t'es au collège ou autre, tu le lis. En plus, c'est clairement un Jane Austen, pour l'avoir lu même en anglais. C'est très simple à lire, et pourtant c'est d'époque, donc tu te dis par moment tu peux te galérer. Ça va relativement bien, c'est court, les dialogues pareil, ça part pas dans des, donc ça se lit très facilement, donc c'est quelque chose qu'ils ont dû lire. Du coup, souvent t'as ceux déjà qui font les antisèches, qui lisent pas bien, qui essaient de trouver un truc en télé ou en adaptation,
ce qui était le cas d'Environica.
Voilà, donc tu as ça, et après tu as aussi, malgré tout, je pense que en plus, t'as le côté BBC, t'as le côté très proche du bouquin, donc si ça se trouve, ça est même utilisé en support pour les élèves, quoi. C'est comme ça nous arrive en France. Bon, nous, seulement, on sortait les vieux classiques qui dataient des années 50, 60. C'était sympathique. C'était oula, mais ils savaient pas faire le parlant encore à l'époque. Enfin.
Alors après, ce qui m'a un peu embêté aussi au bout du compte, c'est que j'ai trouvé, mais bon, c'est compliqué, hein, mais. Alors, oui, disons que c'est une adaptation d'un roman qui date de l'époque, et donc du coup il y a une certaine fidélité au matériel que je peux comprendre. Moi j'ai trouvé que ça manquait de recul par rapport à l'époque, en fait. Que moi j'ai tendance à penser que si en 1995 ou aujourd'hui en 2010, etc., on remet à l'écran une œuvre comme ça du passé ou quoi que ce soit, c'est que. Enfin, j'ai tendance à penser, moi, mais je sais que d'autres gens ne sont pas forcément d'accord, que c'est aussi pour avoir un regard d'aujourd'hui sur l'époque et mettre les choses en perspective. En l'occurrence, ça ne le fait vraiment pas du tout. Et en l'occurrence, ça m'a gêné parce que c'est vraiment premier degré, ça se prend terriblement au sérieux.
Et encore, non, il y a un truc, c'est que par rapport au bouquin, ils ont largement augmenté le point de vue. Enfin, non, il n'y avait que dans le bouquin, il n'y a que le point de vue de la fille.
Ouais.
En fait, ils ont rajouté des scènes pour essayer d'avoir le point de vue masculin dessus.
Oui, ce qui est intéressant, mais
parce que sinon, franchement, le bouquin est largement plus.
Mais c'est ça. Ça aurait été sûrement encore pire. Mais du coup, on est vraiment très centré sur cette famille où donc, il y a 5 filles plus la mère, pour toutes 12 ans d'âge mental, quoi. Et parce que, en gros, elles ont juste.
C'est déjà généreux.
Elles ont juste rien à foutre de leur journée. Et du coup, quand le mec, le voisin du coin, qui est plutôt riche, fait un clin d'œil à une fille, c'est un sujet de conversation pour 3 semaines, quoi. Et encore, il fait pas un clin d'œil, hein, s'il fait vague, enfin, voilà. Donc c'est vraiment une vie très futile et très machin, et il n'y a vraiment aucun recul critique sur ça, à aucun niveau. Et voilà, et moi, clairement, à un moment donné, j'en aurais besoin, parce que j'avais juste envie de leur foutre 3 baffes,
et leur dire, putain, c'est... Mais ça, tu l'as dans aucun Jane Austen.
Mais je comprends, parce que c'est normal, parce que Jane Austen, elle écrit ça à l'époque, si
mais,
tu veux.
Non, mais tu l'as dans d'autres auteurs de l'époque. Ouais. Tu l'as dans d'autres auteurs. Tu as une partie, justement, de recul par rapport aux classes sociales ou aux critiques sociales ou quelque chose. Jane Austen, non, c'est rose tout le long. Il n'y a pas de souci.
Voilà.
Tu ne trouveras rien de ce genre dans du Jane Austen.
Et du coup, moi, ça m'étouffe. Et du coup, le fait que qu'en 95 ou même qu'aujourd'hui, parce que voilà, on fasse quelque chose dans cet esprit-là, je trouve qu'il y a un côté, il y a une façon de. Une nostalgie un peu rance sur une version idéalisée de la société d'avant qui a tendance à me mettre je trouve inconfortable, quoi.
Les adaptations, de toute façon, celle-là comme celle qu'il y a eu en 2005, même si 2005 donc condensé, donc on le ressent encore plus, mais le but de l'une comme l'autre, c'est une histoire romantique, point barre, hein. c'est une grande gueule et un timide, et comment ils vont finir ensemble, quoi.
Et après, j'avoue qu'en plus, finalement, du coup, j'aurais voulu qu'à la fin, mais peut-être parce que ça a duré trop long, que j'avais décroché, Mais à la fin, j'étais plus en empathie avec les personnages, j'ai pas ressenti d'émotion. Honnêtement, je peux vraiment bien aimer un bon mélo, mais c'est, du coup, ça devient même jamais vraiment un mélo.
Non, parce que c'est ça.
Sûrement que je préférerais.
En fait, ouais. Oui, parce que, mais pour le coup, la fin est hyper. Quand tu as vu, moi j'avais vu le film en premier. Et McFadden en plus, la dernière. Enfin, moi je craque, donc c'est tout, vous avez tous compris. McFadden, je craque, voilà. Donc je vais aller me taper les trois mousquetaires en 3D rien que pour le voir bien de ces quatre, donc voilà. Oui, il est dedans.
Juste pour le voir en 3D, tu vas aller voir.
Non, juste parce que voilà, c'est McFadden. En plus, je t'imagine pas, il est dans c'est un des vieux mousquetaires avec la moustache et tout, l'épée. Il doit avoir. Enfin, mais bon, c'est McFadden. J'irai le VO parce qu'il a une voix à tuer. Mais bon, bref, à part cette acparté McFadden, certains se reconnaîtront parce qu'ils vont devoir venir le voir au cinéma avec moi. Au final, dans le film, ils ont amplifié le côté, et encore, il ne s'embrasse jamais à l'écran. Je te jure, dans le film, il y a une scène coupée, qui est une scène ajoutée, créée pour la version américaine, que tu peux trouver sur, moi je l'avais trouvé sur YouTube, etc., où il y a un baiser, mais c'est le seul baiser qu'il y a dedans, au niveau de ces deux personnages. Et dans la série, dans la mini-série, c'est le même genre. Et c'est encore pire, parce que la scène où enfin ils se déclarent l'un l'autre, elle est plate, celle au milieu du champ, là où ils sont à deux en train de causer avec les deux autres devant, t'as l'impression qu'ils sont en train de parler du prix du pain, quoi. C'est terrifiant. Mais dans le bouquin, c'est pareil, c'est très proche. C'est-à-dire que dans le bouquin, tu arrives là, donc tu vois cette histoire de machin de je l'aime pas, oh en fait il est génial, oh il m'aime, etc., il veut m'épouser. La tantine qui débarque pour une grande scène dramatique, tu ne l'épouseras pas, il est promis, machin. Et là, t'arrives à la dernière scène et tu te dis, ça va être la grande déclaration. Et en gros, il lui dit, entre deux trucs, et il va demander à son père, et c'est tout, quoi, t'as rien. Et après, c'est le paragraphe de, et elle s'est mariée, machin, et puis là, machin, truc. Et voilà, et c'est bateau, et ça dure deux pages, quoi.
Tu te remis dinette pour.
C'est-à-dire que non, tu as l'habitude de ce qu'on voit maintenant aussi. C'est-à-dire que c'est trop platonique. C'est trop platonique.
Est-ce qu'ils se tiennent la main à un moment quand même?
Je suis même pas sûre.
C'est pas gagné. Hein.
Franchement, dans le téléfilm, je suis même pas sûre.
Le comble de l'érotisme, c'est censé être une scène où il revient du lac avec un truc
mouillé. Une chemise mouillée.
Puis sa chemise, elle est même pas tellement mouillée. Et puis elle est pas, elle colle pas au corps.
Ça, c'est la scène qui a priori a affolé toutes les Anglaises sur Colin Firth, quoi. Mais je te jure,
cette scène, tu vas sur les blogs,
tu en entends partout, c'est terrible.
Non, mais justement, moi j'entendais ça du point de vue féminin. Alors, putain, Colin Firth là-dedans, c'est formidable.
Non, mais même d'un point de vue féminin, la fameuse scène du lac, parce que c'est ça, en plus, c'est une scène qui est complètement fictive, qui a été rajoutée, qui n'est pas dans le bouquin. C'est-à-dire qu'ils ont rajouté ce moment où, quand il revient, il trouve qu'il a chaud, il va se prendre un petit bain dans le lac, il ressort avec sa chemise trempée, son pantalon et ses affaires sous le bras, et il tombe sur elle. C'est complètement fictif, et oui, en effet, c'est en effet le moment le plus chaud quasiment, mais faut dire que voilà. Mais pour le film, qui est quand même 10 ans plus tard, long métrage, Keira Knightley, Matthew McFadden, lui c'est pareil, maintenant, son site il s'appelle Darcy Lichius. C'est les filles, elles ont été un peu traumatisées, je les comprends. Mais bon, globalement, le plus gros, on va dire, moment sensuel, c'est elle lui embrasse la main et son front contre front. C'est le plus gros moment sensuel. Par contre, je dis pas au niveau émotion, vu la scène avant, comment elle est faite et autres, elle est 10 fois plus puissante. Mais voilà. Mais non, c'est totalement le bouquin. C'est ça le truc. C'est le défaut et en même temps, c'est sa qualité. C'est qu'elle est très proche de l'adaptation série, est très proche du bouquin.
Mais du coup, je pense que voilà, j'ai sans doute bien fait de pas lire Jane Austen. J'aurais sûrement pas été client.
Pour donner, ouais, j'en ai lu deux et j'en ai d'autres et je les ai pas lus.
Allez, enchaîne. Et moi j'avais confié à Dominique le visionnage d'une mini-série à 4x90 minutes, une production je confonds tout le temps
Moati.
Ouais, la boîte de Moati, hein.
Voilà.
Je confonds toujours avec la boîte qui fait engrenage, c'est notre Image et Compagnie, la boîte de Moati.
Oui.
Une production de Moati pour France Télévisions qui s'est passée sur France 2, qui s'appelle Rastignac ou Les Ambitieuses, donc un 4x90. Alors c'est passé en 2001, c'était plein pendant cette période où il y avait comment elle s'appelle, José Dayan, qui réalisait, qui adaptait justement des classiques littéraires en costume avec Depardieu, ouais, dans toutes les adaptations, dans tous les livres de France.
La Belle Époque.
Voilà, et où c'était des trucs où, mine de rien, c'était, enfin, c'était vachement bien produit. C'était
oui, puis c'était du c'était 50 fois 90 minutes, parce que c'était long quand même. Il y en avait une série souvent d'épisodes. Hein.
C'était assez court. C'était
Ça dépassait pas le 4.
Non, non.
Le 4 seulement.
Ça n'a jamais dépassé le 4.
Il faut pas monopoliser Depardieu plus longtemps.
Ça me semblait tellement.
Heureusement, José Dayan est connu pour tourner du 15 pages utile à la journée. Donc ça ne le mobilisait pas trop longtemps, mais quand même.
On va faire des gros plans uniquement sur le visage. T'as même pas de décor à habiller derrière. C'est facile.
T'as pas de lumière, un spot devant.
Voilà, ouais.
Bon, donc voilà, c'était en plein pendant cette époque là et France 2 finalement, enfin oui c'était déjà France 2, prenait un peu le contre-pied parce qu'elle allait chercher dans le patrimoine littéraire, mais le twist c'était qu'en fait on l'adaptait à l'époque contemporaine, donc Rastignac, Rubempré, Vautrin et les autres sont des personnages de l'époque d'aujourd'hui, de 2001, et le ministère c'était d'explorer justement l'ambition aujourd'hui. C'était écrit par Eve de Castro et Nathalie Carter est réalisé par Alain Tasma. Qu'est-ce que tu as pensé de ça, Dominique?
Déjà, moi, je veux des preuves, en fait, que ça a bien été diffusé sur France 2 à l'époque, parce que à voir le truc, je peux pas dire, ah bah oui, bien sûr. Non, pour moi, ça n'a pas été diffusé sur France 2. Bon, il y aura peut-être des gens pour me le prouver, je vais peut-être recevoir des mails dans pas longtemps.
Ça a été diffusé, et pour la petite histoire, il y avait même eu... Je ne saurais pas retourner tout ça, mais il y avait même eu un communiqué de presse de Ségolène Royal qui était scandalisée que le service public ose diffuser un truc pareil. Voilà. Donc ça être, le communiqué de Ségolène Royal sera la preuve ultime que ce truc est passé à la télé.
Bon, après mon teasing où je donne l'impression que j'ai détesté le truc, non, j'ai plutôt bien aimé. Alors, bon, il souffre d'un gros défaut, c'est son démarrage. Il m'avait prévenu. Bon, il m'avait pas prévenu que le troisième c'était aussi un petit peu particulier, on va dire. J'ai pas accroché au début. J'ai vraiment vu le temps passer. C'est très long. L'exposition est très longue. Ça cherche à placer les personnages. En fait, il y a trois personnages principaux. Donc Rastignac, Rubempré et je vais plus me souvenir de son prénom, la pauvre. Ça va me revenir Elsa, donc qui est la copine de Rastignac au début et puis qui va plus ou moins passer dans les bras de Rubempré dans la foulée.
Et qui là aussi ne vient pas du matériau originel de Balzac.
L'idée
que aujourd'hui en 2001, on peut pas traiter l'ambition sans avoir un personnage féminin qui a aussi de l'ambition. Voilà.
Exactement. Donc chacun a une ambition différente, l'un veut réussir dans la politique, l'autre veut réussir en tant qu'avocate, et Rastignac, on ne sait pas trop dans quoi il veut réussir.
Il veut jouir en fait.
Il veut jouir, voilà. Et du coup, cette mise en place est très très longue, pas très intéressante, et ça met en fait la fiction sur une fausse piste. On a l'impression qu'on va se retrouver devant un truc futile, très très sopesque, et puis pas... Et en fait, pas du tout.
Et pour la petite histoire, avant de passer du coup à la suite, je suis persuadé que c'est pour ça que ça n'a pas du tout marché à l'époque.
Oui, bien
sûr. Parce que du coup, on avait vendu ça comme étant un truc un peu différent. Toi, toi, amateur de quelque chose d'un peu différent, tu te mets devant ça et la première partie... En plus, la première scène est vraiment catastrophique.
Ah, oui.
Et la première partie est chiante, c'est un saut banal. Tu te dis, ok, ça n'a aucun intérêt. Et en même temps, c'est déjà peut-être... le public du saut banal ne va pas pouvoir regarder ça. Quoi. Et toi, qui es venu chercher autre chose... Donc tu zappes et tu regardes pas la suite, ça fait un four intégral. Quoi.
Et la première scène en ça casse tout, étant donné qu'ils sont partis du principe de montrer Rubempré et Rastignac enfants. Le problème, on le connaît tous avec les enfants, c'est pour tomber sur un enfant qui est capable de jouer, c'est très compliqué parce que c'est pas une mécanique naturelle. Et du coup, ça sonne très faux, ça ne fonctionne, et la scène ne fonctionne pas en elle-même.
Elle est hyper mal écrite à la base,
les
dialogues, aucun enfant ne les prononcerait jamais.
Exactement.
Quoi. Et en plus, joué par deux enfants qui jouent mal, quoi.
Voilà.
C'est juste très horrible.
Donc voilà, donc on vous a donné envie de regarder. le début de Rastignac. Non, ça jette vraiment sur une faux piste parce que derrière, c'est sombre, c'est politique, c'est sans concession, c'est hystérique, mais vraiment hystérique. Et c'est pas normal que ça ait été diffusé dans la logique de diffusion même actuelle. Ça devrait pas passer, ce genre de choses. Et c'est dommage en soi parce que c'est vraiment un essai particulier. De là à dire que j'ai adoré, j'irai pas jusque-là parce qu'il y a énormément de faiblesses, il y a des pistes avec lesquelles j'ai pas été tout à fait convaincu. En fait, à un moment, Rastignac devient animateur de radio. Et c'est là, en effet, on se place 10 ans après Rastignac. La radio a plus le même impact que maintenant. Et le fait de se dire que Rastignac devient une star, quasiment un demi-dieu, juste en animant une émission de radio où il envoie chier tout le monde, ça, c'est un peu moins perceptible aujourd'hui. Donc du coup, j'ai pas trop adhéré à cette histoire-là. Il y a une autre histoire, alors là, une catastrophe, où il se retrouve embringué avec un couple échangiste. Alors là, j'ai vraiment rien compris. Je vois absolument pas ce que ça vient faire là, et, ni ce que ça apporte au personnage. En fait, on en ressort, on n'a rien appris sur lui. C'est une pastille, en fait. Ça démarre, ça s'arrête, on n'en retire rien. Mais sinon, voilà, il y a une histoire qui circule autour de politique, un sujet très d'actualité aujourd'hui, qui est la pollution. En fait, donc il y a un endroit en Bretagne qui est hautement pollué, les politiques essaient de camoufler ça, et il y a un type
parce que si jamais ça sortait, ça pourrait faire capoter un contrat par la compagnie des eaux en Chine.
Donc des impératifs économiques qui viennent à l'encontre d'une nécessité de santé. C'est surprenant de voir ce truc-là. Et alors, bon, je ne spoile pas, mais la fin est d'une noirceur. Mais ça retourne les tripes, et en même temps, ça donne un petit peu envie de vomir. Ça repousse des limites qu'on n'imagine pas voir repoussées à la télévision française. C'est une transgression complète. On a l'impression que ça a été écrit, mis de côté, tourné, monté. Personne ne l'a vu avant la diffusion. Ça donne vraiment cette impression-là, parce que quelqu'un, pas de sain d'esprit, mais de bien formaté à la fiction française, ne laisse jamais passer ça. Donc, quand certains anciens responsables de chaînes publiques disent qu'ils sont passés à côté de la fiction moderne, et quand on voit Rastignac il y a 10 ans, on se dit que non. Alors, c'était trop loin, c'était trop fort. Mais c'était peut-être une étape, et ça n'a pas été une étape, au final ça a été un accident. Enfin, comme la plupart des bonnes séries ou des bonnes surprises à la télévision française, c'est issu d'accidents et pas de politique. Donc moi j'ai plutôt apprécié, j'ai plutôt bien aimé, j'ai beaucoup aimé les personnages de Rastignac et de Rubin Prés, leur interprétation.
C'est vachement bien joué, c'est ce que j'allais dire. Jocelyn Quiverin, qui m'a rejoint et décédé, Flanan Aubé qui fait Rubin Prés, et la troisième... Et
donc Alika Del Sol qui joue Elsa. Un personnage un tout petit peu en retrait, mais pas inintéressant non plus, quoi. Enfin...
Et puis, les acteurs secondaires autour sont vachement bien. Ah, il y a Zabou Bretman, qui est génial.
Jean-Pierre Cassel.
Et
qui est décédé aussi, ouais. Michel Aumont.
Voilà.
C'est un groupe de petits jeunes encadrés par des dinosaures, mais ils viennent pas cachetonner. Enfin, dans certaines fictions françaises, on voit très bien le type qui est venu lire trois lignes de dialogue pour prendre son chèque. Eux, non, parce que Jean-Pierre Cassel est complètement habité par son rôle. Il est terrifiant, mais vraiment terrifiant. Puis, bon, c'était un acteur fabuleux aussi, mais Michel Aumont, c'est pareil. Il est absolument horrible, et il maîtrise son rôle à la perfection. Zabou, aussi, est formidable. Tu les sens tous investis. Ils avaient le regard sur la totalité. Ils savaient qu'ils faisaient un truc différent, qu'ils auraient peut-être même pas fait au cinéma d'ailleurs. Et sûrement du coup, pas, sûrement pas. Enfin, parce que même la frilosité du cinéma aussi.
Même le cinéma politique existe. Enfin, il y a quelques films dans les 2-3 dernières années, mais en 2001 ça n'existait pas.
Quoi. Non. Donc, non, c'est. C'est fascinant en fait. C'est un objet fascinant.
Moi, c'est pareil, c'est bourré de défauts quoi. Et effectivement, oui. Le mot hystérique, c'est ça quoi. On sent super bien quoi, les auteurs qui n'ont rien pu faire pendant des années, et on leur dit bon, les filles, il y a une ouverture là, les gars, vous pouvez écrire ce que vous voulez quoi. Et qui se disent putain, ça va être probablement notre seule chance de notre vie de faire un truc qui nous éclate à la télé.
Ouais.
Du coup, on met tout. On a 4 fois 90 minutes, on met tout ce qu'on a envie de dire.
C'est exactement
donc
ça.
On va parler de la franc-maçonnerie, on va parler de corruption politique, on va parler de pollution, on va parler d'échangisme, on va parler des médias, on va parler de la communication politique.
D'excision
de Snuff Movies. Et ok, juste. Et ça dure que 4 fois 90 minutes, les filles. Quoi. Mais en même temps, il y a. Sur la plupart des sujets, il y a une vraie qualité d'écriture, quoi. Je veux dire, c'est pas... c'est très noir, et en même temps... c'est noir réaliste, en fait. C'est-à-dire que c'est oui. pas noir cartoon, quoi.
Non, du
tout. C'est une vision très très pessimiste du monde, mais c'est une vision du monde. Pour le coup, un vrai propos d'auteur, quoi. Un vrai point de vue d'auteur, comme on en voit tellement peu.
Oui, tout à fait. Bah, et oui, voilà.
Tout le parcours de Rubin Pré, je le trouve. Je trouve ça génial, quoi. C'est horrible.
C'est horrible ce qui
lui arrive. Il est broyé par la politique, il se retrouve. Il se retrouve conseiller au ministère de l'Environnement, pris en étau entre une ministre, donc Zabouret Pan, qui est une espèce de mente religieuse infecte, quoi, et son mentor, Vautrin, qui est juste la pire ordure de la Terre, et en même temps, dans les milieux politiques, des mecs comme ça, ça existe, quoi.
Et il est d'une sincérité effrayante. Voilà, c'est pas un personnage, voilà, c'est pas un personnage de cartoon, c'est pas un méchant de cartoon, Vautrin. Parce que même quand tu te dis, ouais, c'est vraiment, il fait des œillades, enfin, et il y a des révélations comme celle que tu as à la fin qui fait que tu te dis, non, le type est sincère depuis le départ, il a pas conscience qu'il est l'incarnation du mal, en fait.
C'est ça, il sait qu'il est un cynique,
oui.
Mais il pense qu'il est un cynique pour le bien, en fait.
Exactement.
Il assume sa vision cynique du monde. Il y a une scène avec Rubin Pré, mais la France est une pute, Rubin Pré, quoi. Mmh. Et c'est sa vision cynique du monde, mais il pense que lui, il agit pour le bien de la France malgré tout. Et voilà, et c'est ça qui fait que c'est pas un méchant unicolore, c'est qu'il est persuadé d'agir pour le mieux, quoi.
Et dans sa relation avec Rubin Pré, on peut se dire à un moment, bah, il s'en sert, il l'utilise, et non, parce que là, gros contre-pied, en fait, c'est purement de l'amour qu'il a pour ce type. C'est d'une sincérité, mais voilà, une sincérité effrayante. Je vois pas d'autre. Non, et la musique est plutôt bonne, ce qui est plutôt rare dans les fictions françaises. On a tendance à bazarder un peu ça et à dire à un musicien, tu me fais ça en 2 jours, et puis on mettra ça comme ça. Là, c'est plutôt assez bien travaillé. Esthétiquement, c'est plutôt bien fait. Moi, j'ai été plutôt agréablement surpris.
Alain Tasma est vraiment est bon.
Voilà, oui. Voilà. C'est quelqu'un qui a quand même de la bouteille. Non, vraiment, une bonne surprise. Après, c'est assez particulier parce que chaque épisode couvre 3 mois. Donc, c'est ce qui doit aider aussi à cette impression d'hystérie, c'est que les statues évoluent à une vitesse incroyable, quoi. Et malgré tout, il y a une maîtrise du récit qui fait qu'on n'a pas l'impression de zapper des passages ou d'être sur ou de passer trop vite, quoi.
Et c'est d'autant plus frustrant qu'on revient après sur cette première partie dont la première heure semble en durer 15, quoi.
Oui.
Et tu dis, putain, si vous n'avez pu couper tout ça,
exactement.
Quoi, intégrer l'essentiel après et juste donner de l'air après, quoi.
À un moment, typiquement, cette série-là, aujourd'hui, elle serait peut-être en 6x52 et le premier épisode serait expédié dans le premier épisode et on passerait tout de suite à la suite et on rentrerait dans le... Mm. Puis on aurait peut-être zappé cette histoire de...
Le couple échangiste avec femme frigide et le mari pédé qui veut. Mais moi, ça fait 10 ans que j'ai vu ça et j'ai toujours pas compris.
Je crois qu'on parlait dans le podcast précédent d'un âne avec des chaussettes ou je ne sais quoi. Des chaussons de danse. Et ben là, c'est exactement ça. On le voit arriver. C'est pourquoi et on sait toujours pas.
Je sais pas.
Mais vraiment, vous avez l'occasion de le trouver, bon courage à vous. Hein.
C'est disponible en DVD.
Voilà.
Avec le logo France 2 dessus. Donc c'est aussi, là, t'avais pas vu l'emballage, c'est vrai que je t'avais passé que les disques. C'est aussi la preuve que c'est passé à la télé.
Non, c'est un faux, c'est un faux.
Enlève le autocollant,
celui-là.
C'est ça. Je pense que le DVD, il est épuisé depuis Mathusalem. Mais un jour, dans les solderies, vous pourrez peut-être le trouver un jour. C'est une espèce de rareté, un truc, un ovni de la télé française. Effectivement, une espèce d'irresponsable est passé à la direction de la fiction de France 2.
Ah, je suis certain que tu t'en parlerais aujourd'hui à un responsable. Il te dirait, mais vous vous rendez compte qu'ils ont laissé passer un truc pareil? Enfin, voilà. C'est dommage.
Ouais, et puis en même temps, c'est toute cette malédiction de la télé française où à un moment donné, quand on veut faire un truc, quoi, on met aucune barrière, quoi.
Oui,
et du coup, on crée un truc... Enfin, je veux dire, même s'il n'y avait pas ce premier épisode, ça n'aurait pas fait 6 millions de téléspectateurs, quoi. Parce que ça prend tellement tout, à brosse-poil, c'est tellement violent, c'est tellement... Et du coup, on se ferme au lieu de s'ouvrir, quoi.
Et le truc, c'est que 10 ans après, on n'a pas évolué. Parce que... Non, mais il y a un cas aujourd'hui, la qualité est toute relative, enfin, le rendu est complètement différent, mais si on prend quelque chose comme signature, c'est exactement la même genèse. Il n'y a pas le même passé sur les auteurs, mais c'est exactement la même genèse. Lâchez-vous.
On vous file les clés,
vous faites ce que vous voulez. Et voilà, ça donne Signature, ça donne Rastignac. C'est des trucs où tu les regardes et tu te dis, mais comment ça a pu passer dans les mailles. Parce que à ce moment-là, c'était « Allez, vas-y, c'est bon !» Alors que d'habitude, on serre la vis plutôt qu'autre chose.
Là-dessus, on va terminer la première partie de ce podcast. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine, la deuxième partie. Au programme, The Second Coming, Stuart Life Backwards et Warriors. À très vite, bonjour chez vous.